Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 8 janvier 2022. Alors, bonne année, parce que c'est notre première émission de 2022.
Ben oui, après une petite pause des fêtes, nous voilà de retour.
Bon. Germain, on va recevoir en deuxième partie d'émission Mathieu Roy, qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, j'ai peut-être l'impression que l'entrevue va s'étirer, parce que Mathieu, il a toujours beaucoup de choses à dire. Ça va être bien intéressant. On va parler de technologie, parce que se tenait dans les derniers jours le CES du côté de Las Vegas, Consumer Electronics Show. Alors, il y a beaucoup de technologies reliées à l'automobile qui a été dévoilée là-bas. Et moi, je commence aujourd'hui en vous parlant de la relance de Chrysler par un véhicule électrique qui a été présenté en amont du CES. En fait, c'est la Chrysler Airflow. On ramène le nom Airflow qui avait été utilisé dans les années 30 chez Chrysler, de 1934 à 1937.
Donc, les gens ont eu le temps de l'oublier.
Oui, absolument. Une voiture qui était futuriste pour l'époque, qui était plus aérodynamique, qui était plus sécuritaire, entre guillemets.
Toujours selon les standards de l'époque.
C'est ça, exactement. Mais qui avait des avancées technologiques que les autres véhicules n'avaient pas pour cette époque-là. On a ramené le nom sur la table, mais cette fois pour présenter un véhicule concept, mais très réaliste, que je trouve particulièrement joli, qui est carrément un multi-segment, là, qui ne fait pas VUS du tout. Là. C'est aucunement angulaire. C'est une grosse voiture avec un très long empattement parce qu'on comprend que c'est une voiture électrique. Alors,
et que les batteries sont positionnées dans le plancher.
Ben oui, exactement. Alors, cherchez pas pourquoi les véhicules ont des empattements toujours de plus en plus longs. C'est parce que les châssis intègrent les batteries qui sont souvent très grosses. C'est le cas de ce véhicule-là. On n'a pas dévoilé officiellement la taille de la batterie, mais sur des images qu'on nous présentait, bien, on voit à un endroit une batterie pleinement chargée de 112 kWh. Alors, on peut imaginer que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Deux moteurs électriques de 150 kW chacun placés sur chaque essieu. Donc, c'est un véhicule à quatre roues motrices. Très belle ligne, très luxueux, très futuriste, très spacieux à bord aussi. Alors, c'est la Chrysler Airflow et c'est un véhicule qu'on commercialiserait pour le millésime 2025. Mais ce qu'on a annoncé aussi chez Chrysler, c'est que tous les véhicules de la marque Chrysler seront électrifiés à partir de 2028.
Et finalement, c'est ça la grande nouvelle. Donc, on n'a pas l'intention de tuer la marque Chrysler. Visiblement, on a une vision de cette marque-là. On a un plan qui semble bien établi et un plan qui est totalement électrique, là.
Absolument. Alors, Chrysler sera la marque du futur. En fait, la marque où le passage à l'électrification des véhicules de la grande famille Stellantis va se faire. Donc, on développe des technologies. On les applique d'abord à la marque Chrysler. On comprend que les véhicules qui seront vendus par Chrysler seront probablement plus chers que la moyenne des véhicules électriques qui seront vendus, notamment chez Dodge ou chez Jeep, peut-être. Alors, on va commencer par Chrysler. On va ensuite multiplier les offres chez les autres marques du constructeur automobile. Mais on croyait que Chrysler serait mort et visiblement, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est ça. On dit que d'ici 2028, tous les véhicules de la marque Chrysler seront électriques. Est-ce qu'on a l'intention d'ici là d'amener d'autres véhicules badgés Chrysler qui auront des moteurs à combustion, des nouveautés? Ça, c'est une bonne question. Et l'autre question...
Mais je pense pas qu'on aura une Chrysler 300 dans une forme d'une berline comme on l'a en ce moment, qui sera électrique. Là.
Ça, d'ici la fin de l'année 2023, il faut s'attendre à ce que la voiture disparaisse. Mais est-ce que ça veut dire que dans les plans de Chrysler, on va étirer la fourgonnette Pacifica actuelle à moteur à essence jusqu'en 2028? On a de la misère à s'imaginer ça en ce moment, mais faut pas oublier...
Parce que le succès n'est pas au rendez-vous. Là.
Ben, parce que le succès pas au rendez-vous, puis parce que le marché de la fourgonnette n'est plus ce qu'il était. Je veux dire, on a réussi à vendre des Dodge Caravan pendant très longtemps.
Qu'elles étaient très peu chères.
Puis si tu m'avais dit en 2008 qu'on pourrait acheter la même Dodge Caravan en 2020, je t'aurais jamais cru. Alors là, de dire que la Pacifica actuelle 2021-2022 sera encore commercialisée en 2026, ben j'ai presque envie de te dire, ben pourquoi pas? Mais les choses risquent de changer énormément. Et oui, on a un véhicule hybride rechargeable dans cette famille-là, mais je veux dire, c'est des véhicules qu'on vend au compte-gouttes au Canada par rapport à l'ancienne Dodge Caravan. On a vendu, en fait, au Canada cette année, un total d'à peu près 6500 fourgonnettes, incluant la Chrysler Grand Caravan et la Chrysler Pacifica. Donc, je peux te dire que par rapport aux 20 quelques mille Dodge Grand Caravan...
Il y a un gros manque à gagner.
Alors, c'est sûr que la marque Chrysler est à la dérive, mais ça sera la façon de relancer cette marque-là par l'électrification.
Chevrolet aussi a dévoilé un véhicule qui était très attendu, le Silverado électrique. Bon, c'est ni plus ni moins que l'équivalent du GMC Hummer qu'on avait pu voir il y a quelques mois. Donc, enfin, une version électrique. On nous promet une autonomie de 640 km. Jusqu'à. Donc, en optant pour, entre guillemets, la grosse batterie. Malheureusement, on n'a pas les détails techniques là, liés à la capacité de la batterie. Donc, j'imagine que ça viendra au fil du temps. On nous promet aussi une capacité de remorquage de 10 000 livres, tout dépendant, encore une fois, de la version choisie. Et viendra plus tard une capacité de remorquage de 20 000 livres. Donc, je ne sais pas comment on va réussir à faire ça, mais ça promet. Ça, il n'y a aucun doute.
Le Silverado EVHD.
Oui, ça fait beaucoup de lettres.
Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi de ce concept-là, c'est qu'on n'a pas dévoilé uniquement un modèle à 125 000 $. On a aussi dévoilé le Work Truck.
Exactement.
Et une version Trail Bus.
Exactement. En fait, la version Trail Bus, on nous l'a dévoilé de manière très timide, avec aucun détail, mais ça nous indique tout de même que Chevrolet entend avoir une offre très diversifiée de son Silverado électrique, comme c'est le cas notamment avec la version à essence. Donc, ce ne sera pas une version électrique, ce sera des versions électriques. Et oui, tu parlais d'un prix assez élevé, donc avec une version de lancement, on est à 120 000 $ au Canada. C'est assez colossal. Mais pour une version Work Truck, donc, et là, vous irez voir les photos sur le site du Guide de l'Auto. C'est visuellement peut-être un peu moins tape à l'œil, mais on a une couleur gris non métallisée, des jantes d'acier. Bref, un véhicule de travail, un véhicule très ordinaire, mais qui est 100% électrique. Et là, on nous parle d'un peu plus de 50 000 $. Alors là, tout d'un coup, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais ce sera pas 640 km d'autonomie pour cette version-là, avec un prix d'entrée aussi alléchant. Mais on aura des détails, là, j'imagine, au fil des mois à venir.
On peut aussi se demander pourquoi on a utilisé le nom Silverado, alors que le nom Avalanche aurait pu être utilisé, puisqu'on reprend le concept du précédent Avalanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jonction entre la caisse et la cabine du véhicule.
On peut rabattre la banquette arrière, rabattre aussi...
La paroi ou le muret qui se situe entre la caisse et la cabine.
Et ça permet d'avoir là un espace de chargement qui est largement bonifié.
Mais on parle de plus de 10 pieds d'espace de caisse lorsque tu rabats les sièges arrière.
Même si tu te mets à plat et que tu tires les bras, tu touches ni à un bout ni à l'autre. Là.
Exactement.
C'est assez... Ça frappe l'imaginaire. On est dans le tape à l'œil, forcément. On a un grand toit en verre aussi. Donc, on a un paquet de gadgets, mais...
Mais ça me rejoint quand même un peu plus, moi, personnellement, que le Hummer, que je trouve trop ostentatoire pour mon goût personnel. Je vais préférer un camion comme celui-là à celui de GMC, mais ça permettra à la clientèle de GM d'avoir deux choix. Et pour une fois, on n'a pas le même véhicule chez Chevrolet et chez GMC. Mm-hmm. Ça, je trouve ça intéressant.
Oui, parce que les véhicules semblent assez bien distinctifs là, pour ce qu'on en sait pour le moment. Et tu mentionnes...
Parce qu'il n'y a rien de plus identique qu'une Savannah et un Express.
Ça me paraît assez similaire, effectivement. Mais même le Silverado actuel à essence et le Sierra à essence, tu sais, tu as quelques détails cosmétiques différents, mais sinon, c'est du pareil au même. Et bon, tu mentionnais une version Trail Bus. C'est intéressant. intéressant. Et même sur le plan visuel, c'est intéressant. Là. Donc, on a une approche totalement différente d'avec les deux autres versions. On a des pneus, là, un profil peut-être un peu plus agressif pour du hors-route et compagnie. Donc, franchement, c'est bien intéressant.
VinFast, on en avait parlé parce que VinFast avait dévoilé des véhicules du côté du salon de Los Angeles. On n'a pas lancé la serviette et on a prouvé qu'on était extrêmement sérieux. On a dévoilé trois autres nouveaux véhicules qui viendront sur le marché canadien. Alors, il y aura cinq véhicules au total de commercialisés par VinFast très rapidement.
C'est une offensive, ma foi, très agressive hein, de la part de ce constructeur vietnamien. Donc, on nous a dévoilé, comme tu l'as dit, trois VUS, et je les nomme en rafale, le VF5, le VF6 et le VF7. Oui, bravo.
Ah, wow.
Bravo Antoine, tu as un très fort sens de la déduction.
On s'est inspiré des nomenclatures de chez Polestar, 1, 2, 3.
Oui, à peu près, à peu près. Mais quand viendra le temps d'intégrer le VF5,5, ben peut-être que ce sera différent. Je sais pas ce qu'on fera rendu là. Mais enfin, on n'a pas eu de grandes...
5,5, c'est parce qu'il va y avoir une toilette.
Oui, c'est ça, exactement, comme un appartement. Mais tout ça pour dire qu'on nous les a dévoilés, on nous les a présentés, on nous a dit qu'ils arriveraient éventuellement au Canada, mais on n'a pas de grands détails techniques, de capacité de batterie, d'autonomie. J'imagine que tout ça suivra, mais ça prouve une fois de plus que VinFast a des intentions très sérieuses en Amérique du Nord.
Oh oui, on se laissera pas abattre, puis on est très sérieux, puis on n'arrive pas timidement. Tu sais, on regarde comment Polestar fait les choses depuis leur arrivée.
Un véhicule à la fois, tranquillement.
C'est pas évident. Évidemment, c'est une entreprise qui perce le marché mondial, et bon, ben, comme n'importe quelle entreprise, les véhicules électriques dans certains pays scandinaves sont très populaires. Volvo est une entreprise scandinave, bon, maintenant appartenant à des Chinois, mais on peut comprendre que Polestar soit peut-être un peu plus timide sur notre marché que sur d'autres marchés, mais VinFast semble arriver à vitesse grand V.
Oh, grand V,
hein, oh, quand même.
C'est bien dit.
et on va voir ce que ça va donner, mais on ne sait pas exactement quand ces véhicules-là vont rouler chez nous, mais ça semble être très, très, très rapide comme approche.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, cette semaine, tu as conduit un véhicule 100% électrique, le Kia Niro EV.
Ouais, ben Kia Niro, en fait, c'est un véhicule qui connaît du succès depuis 6 ans. En fait, c'est arrivé sur le marché canadien. Pas un VUS, c'est vraiment une voiture à haillons, roue motrice avant, même technologie qu'on va retrouver dans la Kona EV, dans la Soul EV aussi. Mais du côté de chez Kia, avec la Niro, ben, on se démarque un peu par un confort qui est supérieur, par un véhicule qui est peut-être un petit peu moins tape à l'œil. C'est vraiment discret comme véhicule, mais c'est certainement plus efficace pour une petite famille que justement un Kona ou une Soul, parce que il y a plus d'espace à bord.
Le coffre est plus volumineux, mieux aménagé. Oui.
Puis, tu vois, on annonce...
Et pourtant, le Kona me paraît plus populaire au Québec, en tout cas.
Oui, absolument. Mais le Kona a l'avantage d'avoir des versions peut-être un peu moins chères. Et même dans les versions de base du Kona, on n'est pas handicapé, si tu me permets l'expression, au niveau de l'équipement. Alors que du côté de chez Kia, avec une version EX de base, pas de volant chauffant, pas de siège chauffant, pas de pompe à chaleur pour la batterie, il faut aller à la version EX+, qui est 6 000 $ de plus pour avoir accès à ça. Et ensuite, à la version SX, mais qui coûte 5...
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
56 000 $ transport préparation inclus pour avoir droit à du cuir, à des gadgets de sécurité, à tout ce que tu voudras. Alors, le prix est quand même pas donné, mais bon, évidemment, il y a 13 000 $ de crédit qui s'applique sur ce véhicule-là. Sauf que je veux pas dire que j'ai redécouvert ce véhicule-là en le conduisant cette semaine, mais ça me paraît encore un choix très, très, très logique. C'est un véhicule qui a su prouver sa grande fiabilité aussi. On a multiplié l'offre de ce véhicule-là qui était disponible au compte-gouttes quand c'est arrivé. Tu te souviens? moyen, il n'y avait pas moyen de mettre la main sur une Niro, ben là, dans le contexte actuel de la pandémie puis d'une pénurie de véhicules chez les concessionnaires.
Et de véhicules électriques en plus.
Bon, alors ça, c'est des véhicules qui sont disponibles, qui sont garantis 5 ans. Et le truc que j'ai apprécié, oui, c'est le confort. L'ergonomie générale, ça va. Il y a quelques petits trucs qui m'agacent au niveau de la console. Bon, mais 385 km d'annoncé. Dans des conditions hivernales, tu es décemment capable de rouler facilement 300 km sans contrainte. Alors, je trouve que ce véhicule-là ne perd pas beaucoup d'autonomie par rapport à d'autres et c'est un de ses gros avantages. C'est un véhicule que tu peux penser pouvoir utiliser même pour faire un Montréal-Québec en hiver sans devoir t'arrêter. Alors ça, je trouve ça convaincant, pas un peu. Puis ça
ne force pas à trop de compromis, là.
Exactement. Et en location, ils sont très agressifs. Qui a jamais été fort en location, mais considérant la valeur de revente de ces véhicules-là, considérant aussi qu'on applique 13 000 $ de crédit gouvernemental là-dessus, écoute, tu peux louer une Kia Niro de base électrique pour 400 $ par mois, taxes incluses. Je trouve ça franchement intéressant. 400 $ par mois, taxes incluses, 385 km d'autonomie, puis tu mets pas un sou d'essence. C'est pas mal, là.
Pour une petite famille, ça peut être à considérer sérieusement.
Oui, parce qu'actuellement, si tu roules l'équivalent de 20 000 km par année, tu risques de mettre quelque chose comme 300-350 $ d'essence par mois. Alors, juste ça, tu viens de faire le paiement de ton véhicule. Bon, évidemment, faut que tu le recharges, le véhicule.
Oui,
là.
Oui, mais en faisant la majorité des recharges à la maison, on diminue beaucoup.
Ben, ça va te coûter 50$ par mois.
Le coût d'utilisation, voilà.
Et encore. Franchement convaincant. Toi, de ton côté, ben, on parlait...
C'était pas un véhicule électrique.
Pas tout à fait. 6,2 litres V8, let's go.
Oui, donc GM6 Sierra 2021. J'aurais aimé conduire le 2022, mais malheureusement, on va devoir attendre quelques semaines, quelques mois. Et ça m'a convaincu qu'il était dû pour des changements de mi-génération à l'intérieur, là, la vieille présentation, les vieux cadrans. On a encore le levier à la colonne. Ça, moi, ça me plaît. Je sais qu'on ne l'aura plus dans les nouvelles versions.
Mais on continue de nous prêter ces véhicules-là parce que les 2022 n'arrivent pas.
N'arriveront pas avant...
Le milieu de l'été.
Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a pu, le conduire. Et c'était une version Denali, donc une version haut de gamme, relativement dispendieuse. Là, on est à plus de 80 000 $ Et quand tu regardes l'aménagement de l'habitacle, bon, tu te dis, j'ai pas un véhicule de 80 000 $ entre les mains. Mais la comparaison avec un Sierra X31, je l'ai trouvé intéressante parce que c'est beaucoup plus confortable.
Sierra X31, qui est l'équivalent d'un Z71 chez Chevrolet.
Exactement. Ouais. Et je pensais pas que la différence et l'écart étaient si importants, mais franchement, l'écart est très présent. Et si vous n'avez pas besoin de cet ensemble-là, X31, si vous n'avez pas besoin...
Qui est conçu, dans le fond, pour charger davantage. Oui. Si vous remorquez, si vous chargez, c'est une suspension qui est plus raide, mais qui est plus solide et qui permet au véhicule d'être...
Mais au quotidien, si on ne charge pas à outrance, ça brasse beaucoup plus.
Ouais.
Et avec un peu plus de 1000 km, là, j'ai terminé avec 14,5 litres au 100 km.
Ça, c'est 14,5 litres au 100 km de plus que le Silverado électrique qu'on a dévoilé cette semaine.
Là. Oui, exactement. Ouais. Mais vois-tu l'écart avec le plus petit des deux V8, le 5,3 litres, n'est pas énorme non plus.
C'est très comparable.
Mais en même temps, la valeur ajoutée du 6,2 n'est pas énorme non plus. Le 5,3 fait, à mon avis, amplement le travail. Donc, il n'y a pas une grosse différence d'économie au rendement non plus. Donc,
il y a quand même une différence de puissance. Quand tu conduis les deux moteurs côte à côte...
Oui, évidemment, là, il y a une légère différence, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas
certain. Ça dépend vraiment de ce que tu as besoin.
Le 5.3 fait largement le travail, à mon avis, est très efficace. Donc, voilà.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, la semaine dernière avait lieu un salon de l'auto, en quelque sorte. En fait, c'est pas un salon de l'auto officiellement, mais on pourra considérer que cet événement-là aura été le plus gros salon de l'auto de l'année. Et je me permets de, même si on sait pas ce qui s'en vient dans l'avenir, je me permets de te dire que ça sera probablement le cas. On parle évidemment du CES, du Consumer Electronic Show, qu'on appelle aussi le Car Electronic Show dans le jargon parce que c'est devenu un salon de l'auto en partie. Et qui de mieux pour en parler que Mathieu Roy, qui a vu cette transition se faire à l'époque où le CES ne présentait pas de voiture et là, c'est rendu pas un salon de l'auto uniquement, évidemment, mais une bonne partie de l'événement. On a d'automobile. Mathieu est avec nous. Salut, Mathieu.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour, messieurs.
Bon, alors, évidemment, cette année, tu as vu le CES virtuellement, mais explique-nous d'abord en quoi consiste le CES.
Le CES, c'est quand même un salon assez âgé. Peu importe le sujet qui est traité, là, c'est le contenu du sujet qui est traité, la techno, ça remonte à il y a quand même 54 ans et c'est un immense salon de la technologie, mais destiné à la consommation. Donc, les produits qui sont présentés au CES depuis toutes ces années, c'est des produits qui ne seront pas nécessairement disponibles dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y en a qui profitent du CES pour lancer des produits là. Il y en a qui vous disent, bon, ben cette année, vous allez avoir tel produit qu'on va présenter. On a vu l'apparaître là-bas, la vidéocassette, le disque compact, la Xbox, les téléplates, les ordinateurs, l'impression 3D. C'est 171 000 visiteurs en 2020. C'était énorme. Ça, c'est bien avant la COVID. On parle d'environ 4 à 4500 exposants. Puis vous pouvez imaginer là-bas là, qu'il y a à peu près 20 000 nouveaux produits qui sont présentés.
Bien, évidemment, ce que tu nous dis, c'est 171 000 visiteurs. Ça, ce ne sont que des gens de l'industrie. C'est pas ouvert au public, le CES, là.
C'est pas ouvert au public.
Contrairement au Salon de l'Auto de Montréal, par exemple.
Il faut qu'ils sortent le portefeuille.
OK, parfait.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que au CES, on a déjà eu deux kiosques. D'un côté, c'était VHS, l'autre côté, c'était Beta. Puis qui va gagner?
Écoute, ça ressemble à peu près à ça. Puis c'est vraiment très concret ce qui est là-bas. C'est-à-dire que c'est rarement futuriste. Mais là, ce qu'on a commencé à remarquer, et cette année en a été une autre preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de marques liées à l'automobile qui sont présentes au CES. Cette année, c'était 185 marques liées à l'automobile qui étaient présentes d'une quelconque façon au CES, soit virtuellement ou encore sur place.
Toi, tu as vu les premiers balbutiements de l'automobile au CES parce que tu me disais avoir été présent physiquement au CES avant même que les voitures débarquent là-bas.
Oui, exactement. Parce que très rapidement, on s'est rendu compte, bien sûr, que le mariage entre l'auto et la techno, c'est un mariage qui était naturel. Qu'on remonte aux régulateurs de vitesse adaptatifs, les systèmes de son, les affichages radio, les systèmes de divertissement, plus récemment, les capteurs qu'on a autour des véhicules, les caméras, la conduite autonome. On a vraiment vu la progression comme ça du monde de la techno débarquer dans l'automobile. Et l'automobile s'intéresse aussi beaucoup à la techno. On a vu des associations qui remonte à Microsoft et Ford avec le système Sync.
Qui n'était pas toujours une grande réussite, hein, d'ailleurs.
Eh boy, ouais, c'est, disons qu'il y a encore du travail à faire en matière d'interfaçage quand il est question, je dirais, d'expérience pour les conducteurs. Mais honnêtement, ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait plancher pendant des heures parce que j'obsède un peu des fois sur comment est-ce que les machines où les véhicules nous parlent et comment nous, on peut leur donner des directives ou appuyer sur certains boutons et se retrouver. C'est pas toujours facile, vous avez raison, là.
Ouais, c'est ça.
Tu nous parles de constructeurs automobiles qui intègrent de plus en plus la technologie, mais à l'inverse, il y a des entreprises technologiques qui, elles, tentent de faire une incursion dans le domaine de l'automobile. Et c'est le cas de Sony qui en a mis plein la vue, d'ailleurs, cette année au CES.
Oui, et Sony, cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on savait qu'ils avaient déjà des intentions liées à la voiture. Parce que j'étais à la présentation de Sony en 2020, quand à la fin de la présentation, après nous avoir présenté des trucs liés à leur PlayStation, des appareils photo, des caméras d'action, eh bien là, ils font arriver sur scène une voiture et personne ne s'attendait à voir la Vision S, qui était ni plus ni moins qu'un espèce d'étalage de leur savoir-faire à bord d'un véhicule. Donc, tout le savoir-faire puis l'expertise de Sony avait été intégré dans toutes sortes de choses, dans des capteurs, dans des caméras, dans des systèmes de divertissement, et ils se sont associés avec un constructeur pour fabriquer ce concept-là. Et cette année, bien, vous l'avez vu, ils persistent et signent avec la Vision S02, ouais. Une 7 places électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi annoncé que Sony allait avoir une division voiture maintenant, là.
Ben, tu sais, puis quand on a présenté ce concept-là il y a quelques années, non seulement on était pris par surprise, mais ça donnait pas l'impression d'un véhicule concept inatteignable comme parfois certains constructeurs vont lancer pour donner une idée fantaisiste et futuriste de la vision de l'entreprise. C'était quelque chose de très concret qu'on pouvait même imaginer sur nos routes dans quelques années. Et là, c'est ce qu'on vient de dévoiler finalement. Le véhicule qu'on a dévoilé aujourd'hui, c'est pas nécessairement plus futuriste que la moyenne des autres véhicules lancés par les constructeurs en ce moment, là.
Exactement. En fait, quand j'étais jeune puis que je regardais justement les guides de l'auto, moi, ma partie préférée, c'était tout le temps, tu sais, le dossier futur. Ouais. Puis les concepts étaient vraiment éclatés. Puis la phrase que je vais dire n'a aucun sens. Mais le futur n'est plus ce qu'il était.
Non, absolument pas. Ben,
ça veut dire que
si tu veux être convaincu, fais juste regarder Back to the Future, puis regarde les voitures qu'il y a là-dedans, qu'on imaginait comme voitures du futur en 2000, puis constate ce que c'est aujourd'hui, puis tu vas comprendre que la vision qu'on a du futur et ce que ça sera, c'est certainement pas la même chose.
Non, puis l'autre chose, c'est quand on parle de quelque chose de futuriste, on parle de dans 5 ans. La technologie avance tellement vite qu'on est toujours un peu surpris. Et d'ailleurs, je me permets de passer à GM, qui est allé vraiment là, d'une déclaration très audacieuse. Ils ont dit au CES être en mesure de vendre des véhicules totalement autonomes en milieu de 7 décennies. Donc, 7 décennies, on parle au mieux de 2025. Et ça, c'est la PDG Mary Barra qui... C'est donner une échéance. Et donner une échéance dans le monde de la techno, moi, j'adore ça, mais c'est vraiment très audacieux. Je sais pas comment ça fonctionne dans le monde de l'automobile, mais quand des constructeurs donnent des échéances, je sais pas ce que ça veut dire concrètement.
C'est souvent de la poudre aux yeux. Moi, je me souviens qu'en 2014 ou 2015, on avait osé dire chez Volvo que tous les véhicules chez Volvo seraient électrifiés en 2020. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai.
Mais on tend vers ça et dans un avenir plus ou moins à court terme, à partir d'aujourd'hui, ça va être ça la réalité. Mais... Donc, c'était peut-être un peu ambitieux, mais on va y arriver avec un petit peu de retard.
Sauf que la déclaration de Mary Barra sur la conduite autonome, je la trouve... non seulement fantaisiste, mais aussi inutile. Parce que, si vous voulez mon avis, le pire flop dans l'industrie automobile de cette décennie, c'est la conduite autonome. Ça fait des années et des années qu'on nous parle de ça. Il n'y a pas nécessairement d'avancée. À chaque fois qu'on ajoute une nouvelle technologie, il y a une embûche qui vient avec. Puis on ne sera jamais capable de légiférer comme du monde, à savoir... Si jamais il y a un pépin, si jamais il y a un accident, qui en sera responsable? Alors, c'est bien beau là, d'inventer une conduite autonome qui fonctionne magnifiquement bien, même dans les pires intempéries, mais est-ce qu'on veut vraiment ça et comment on va légiférer autour de ça? Je pense pas que c'est ça, moi, qu'il faut regarder comme élément futuriste. Je pense qu'il faut surtout regarder comment le véhicule fonctionne et se déplace et comment la mobilité fonctionne. La conduite autonome, j'y crois encore plus ou moins.
Et tu as mentionné les intempéries. C'est certain que quand on est situé dans la Silicon Valley, par exemple, peut-être qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'au Québec avec l'hiver et la construction, par exemple. Donc, si on a des radars et des lidars qui doivent analyser la route, la signalisation, et que tout ça est enseveli sous la neige, ben ce ne sera pas nécessairement une chose très facile à faire.
Non. Bon, Mathieu, maintenant...
Vous devinez que j'ai un petit sourire quand même parce que, évidemment, la conduite autonome, moi, j'y crois et les essais que j'en ai faits, c'était des essais technologiques. C'était pas des systèmes qui étaient destinés au grand public maintenant. Mais il y a une compagnie comme Yandex dans laquelle je suis embarqué qui m'a jeté par terre.
OK.
Est-ce que quand GM dit le milieu de la décennie, c'est audacieux, bien sûr, c'est audacieux. Tout est toujours audacieux quand il est question de voitures autonomes. Mais je suis à peu près certain que, en ce moment, les avancées technologiques vont plus vite que notre capacité à accepter ces mêmes technologies-là. Puis les intempéries, on va passer par-dessus ça, comme on est arrivé à construire des ponts en plein hiver à moins 40, alors qu'on pensait à une époque que c'était pas faisable. Mais la voiture autonome pourrait être aussi un dossier extrêmement intéressant à discuter avec vous autres une autre fois. Mais GM avait déjà investi dans Cruise, et là, on promettait des taxis autonomes vers 2019. On pourrait voir ces premiers taxis autonomes arriver plus tard cette année. Mais bref, c'était la petite portion de GM et voiture autonome, à côté de laquelle j'ai mis un petit astérix, les gars.
Bon. D'ailleurs, tu nous parlais de GM. GM qui a eu un très gros CES parce qu'on y a dévoilé, entre autres, le Silverado électrique, donc une camionnette électrique très attendue. On nous a aussi répété une fois de plus qu'on avait l'intention d'être présent dans la mobilité avec un grand M. Et ça, c'est une tendance qu'on observe chez bien des manufacturiers. C'est le cas de Hyundai, par exemple, où on a dévoilé une sorte de planche à roulettes plus ou moins autonome. Qu'est-ce que tu penses des manufacturiers automobiles qui...
J'aime le plus ou moins.
Ben, c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le
décrire. Y a-tu un vecteur de coupe sur la roue arrière qui va redistribuer le coupe dans le virage sur le trottoir de la plage?
Je te laisse en faire l'essai et n'oublie surtout pas ton casque.
C'est ça.
Mais qu'est-ce que tu penses, Mathieu, de ces manufacturiers automobiles qui ne délaissent pas l'automobile traditionnelle, mais plutôt tendent à aller vers la mobilité dans sa plus large expression?
Bien, en fait, c'est la façon dont les constructeurs automobiles vont survivre. Déjà, je crois que c'était Hyundai qui, lors de leur conférence que j'avais vue, je ne me rappelle plus si c'était en 2018 ou en 2020, mais ils avaient dit « Nous sommes un constructeur automobile. Nous avons été pendant des années un constructeur automobile. Nous devenons maintenant une compagnie de mobilité. »
Oui.
Donc, ce qu'ils veulent, c'est transporter des personnes, des produits, de la marchandise. Et si on est pour transporter des personnes, aussi bien que ça soit dans des véhicules que nous avons fabriqués. Donc, on est en train de revoir complètement les modèles d'affaires parce que la propriété même d'une auto va être appelée à changer, surtout dans des milieux urbains densément peuplés.
On va
vouloir prendre, et le nerf de la guerre, c'est le dernier kilomètre, là, celui qui nous amène au seuil de notre porte à le métro ou encore le transport en commun. Et c'est là que les compagnies voient un marché énorme. Il y a toutes sortes de compagnies qui, justement, sont devenues et sont en train de migrer vers le transport de personnes, mais c'est surtout des compagnies de mobilité. La mobilité, ça se fait, bien sûr, en voiture, en minibus, mais aussi avec des espèces de d'éconoline autonome dans lequel on est capable de rentrer de la marchandise.
Oui. Bon, évidemment, le CES, il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait beaucoup de technologies présentées là-bas chez différents constructeurs automobiles et même chez des entreprises qui ne sont pas des constructeurs eux-mêmes, mais qui travaillent en amont des constructeurs automobiles. Qu'est-ce qui a frappé ton... Qu'est-ce qui a attiré ton attention là-bas?
Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours du tape à l'œil. C'est quoi le CES? Il y a tout le temps l'espèce de folklore là-bas. C'est quoi la plus grosse télé, tu sais? Mais je me rends compte.
Faut pas oublier qu'on est à Las Vegas, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Et là, BMW, on dirait, a fait exactement ce que toutes les grandes compagnies techno font, c'est-à-dire qu'ils ont présenté une grosse télé dans un de leurs véhicules pour les passagers. Ce sera un écran de 31 pouces. 8K. Bon, on est encore dans le concept, mais ça serait dans les modèles de luxe propulsés par FireOS, donc une association avec Amazon. On aurait tous les services de vidéo, c'est un écran tactile, et dans la portière, il y aurait une espèce aussi de petit pavé tactile pour pouvoir déplacer un curseur dans l'écran. On pourrait recevoir dans cet écran le contenu d'un téléphone. Donc, évidemment, la techno qui s'invite, mais je veux dire, par la grande porte chez BMW, mais BMW a surtout retenu l'attention avec son projet de... C'est une peinture, c'est une texture, mais ça change de couleur. Et on s'est grandement inspiré des liseuses. Vous savez, les espèces de tablettes électroniques là, qui sont monochromes. Là, c'est noir ou c'est blanc. Donc, c'est vraiment des tons de gris qu'on peut aller chercher à notre guise. Ça va être sur la version concept de la iX, de ce que j'ai vu.
Absolument.
Donc, il y a des millions de micro-capsules qui sont pas plus grosses qu'un cheveu et dont on peut changer la charge électrique. Donc, ça deviendrait blanc, ça deviendrait noir. Et on parle pas de commercialisation pour l'instant, mais au niveau du look, c'est quand même assez, disons-le, inhabituel.
On salue les carrossiers qui vont devoir réparer ces voitures-là une fois qu'elles auront subi un accident. Je sens que ça va être une tâche très facile.
J'ai hâte de voir la résistance. J'ai hâte de voir aussi comment ça va répondre aux différents changements de température. Est-ce que ça pourrait s'adapter aussi en fonction de la température ou de l'ensoleillement? Tu mets la voiture blanche quand c'est au gros soleil, mais tu la foncies lorsque, par exemple, c'est plus froid à l'extérieur et qu'on a besoin d'attirer les rayons. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres couleurs? Est-ce qu'on peut choisir un design? Est-ce que je pourrais entrer, je sais pas moi, un mot un peu vulgaire si je dépasse quelqu'un qui m'a klaxonné auparavant ou quelque chose du genre?
Ben, c'est un excellent getaway vehicle. Cool. Moi, ça me rappelle au début des années 80, il y avait une série de films un petit peu stupides, mais qu'on appelait Cannonball Run, et où on voyait des voitures, il y avait une Lamborghini Countach, entre autres, là-dedans, qui changeait de couleur parce qu'on voulait fuir la police. Ben, écoute, c'est peut-être une bonne façon de le faire.
Mais ça rappelle un peu aussi les peintures un peu éclatées du tournant des années 2000, là, qu'on appliquait sur des Honda Civic et compagnie au salon de l'autosport et ce genre de choses. On la regarde d'un angle, elle est mauve, on la regarde d'un autre angle, ça tend plus vers le doré, un autre angle, c'est le turquoise.
Le constructeur qui a fait ça.
Imagine devoir appeler la police et dire la voiture qui m'a happé, elle est un peu mauve, un peu dorée, un peu verte, bref.
Parce que le constructeur qui avait fait ça, si tu te souviens, c'est en 1998 ou 99, on avait lancé une Mustang de couleur mysticrome.
Oui.
Et c'est une couleur impossible à réparer. Il n'y a pas un carrossier qui était capable de réparer ça. Donc aujourd'hui, ce sont des voitures très rares et très convoitées parce qu'on a appliqué ça uniquement sur des versions SVT de la Mustang à l'époque.
Mais l'esthétisme demeure douteux.
Ben, c'est-à-dire que c'est une belle curiosité. On a vendu ça un an, quelques centaines d'unités, puis ça a été ça. Mais oui, des couleurs qui changeaient selon l'angle, selon la lumière, selon... on n'en a pas vu souvent dans l'industrie réelle parce que c'est pas nécessairement logique. Et si tu achètes une voiture comme ça, que tu tentes de l'assurer, ben bonne chance. c'est pas évident.
Je rappelle ici que c'est vous qui avez le plein contrôle sur le changement de la couleur. C'est-à-dire que vous passez de blanc à noir avec les tonalités de gris là, entre les deux. Là.
C'est ça, mais tu peux pas aller jouer dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu. Là, c'est ça.
Pas pour l'instant.
C'est comme
les vieilles télés.
Ça viendra dans 5 ans.
C'est ça, exactement. À part BMW...
Udelve, faut absolument voir ça. Tantôt, on parlait de la migration des constructeurs automobiles qui deviennent des compagnies de mobilité. Udelve, c'est U-D-E-L-V.
Okay.
Ça me rappelle étonnamment le Toyota e-Palette qui avait été présenté en 2018.
Oui, oui, oui.
Imaginez donc une espèce de camion, une boîte à souliers autonome, mais hyper modulaire. C'est-à-dire que c'est ajustable, modifiable aux besoins de ce que vous avez. Vous voulez transporter, je ne sais pas moi, plein de marchandises, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez enlever des côtés, vous pouvez enlever des morceaux, mais vous pouvez aussi faire de la livraison. Vous avez jusqu'à 2000 livres de cargaison. Vous pouvez faire jusqu'à 80 arrêts. On peut prendre ou déposer des choses dans cette espèce de boîte à souliers sur roue. C'est quand même assez gros. Là.
Ouais.
Évidemment, c'est de la conduite autonome. Il y a des caméras, des lidars, des GPS. Pour les milieux urbains, vitesse maximale 112 km/h. On est entre 250 et 500 km selon le modèle d'autonomie. Mais pour des livraisons chez des particuliers, ça peut être très intéressant. Vous avez commandé une console de jeu avec des chaussures. Eh bien là, ce camion arrive en avant de chez vous. Avec votre téléphone, vous entrez votre code. Il n'y a que votre porte qui s'ouvre comme un locker. Vous prenez votre console, vos chaussures qui ont déjà été préalablement payées. Eh bien, cette espèce de boîte de livraison retourne, continue son chemin. Et si, par exemple, on vous a raté, bien, elle peut repasser parce qu'il n'y a pas de problème de logistique ou de main-d'œuvre à payer selon, évidemment, bien sûr, les aspirations de la compagnie. Mais ça, c'est pas la première fois que je vois ces concepts-là d'espèces de camions ou de petits minibus de livraison. Et j'en ai tellement vu que j'ai de la misère à croire que ça se produira pas un jour.
Ça me paraît un petit peu plus évolué qu'un Chevrolet, un GMC Savannah, par exemple.
Oui, oui, oui. Bien, la prochaine étape, ça sera de que ces véhicules-là soient capables de livrer des colis qui sont pré-désinfectés. Parce que
peut-être que d'ici à ce que cette technologie-là voit le jour, on aura mis fin à la pandémie, on le souhaite. Hein?
Ben, en tout cas, permettez-moi d'être sceptique, mais enfin bref. OK, donc, et mis à part cette entreprise-là que tu appelles Udelve, bon, évidemment, quelques constructeurs automobiles qui n'étaient pas présents sur place, mais qui ont dévoilé des technologies en amont pour ne pas se faire juger parce qu'ils étaient présents au CES dans le contexte actuel. actuelle. Il y a Mercedes qui a lancé, qui a dévoilé quelque chose. Ford aussi a dévoilé les prix de son Lightning, de la camionnette Lightning. A aussi annoncé qu'on allait doubler la production de la camionnette Lightning parce que la demande est trop forte. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'arrivée massive des camionnettes 100% électriques sur le marché? Parce que ce sont quand même des véhicules très imposants, là.
Ben, c'est un pari qui est vraiment très intéressant. Puis moi, je n'ai pas besoin de camionnette dans ma vie, sauf qu'on dirait qu'à regarder comment Ford a fait son Lightning, je me dis, mon Dieu, mais on dirait que je veux ça parce que tu ne peux pas te planter quand tu rentres dans cette gamme de véhicules-là parce que...
Parle-en à Nissan, ils ne diront pas la même chose.
C'était une approche beaucoup plus traditionnelle.
Oui, c'est
là.
Ça.
Oui, mais tu sais, il y a des puristes dans le monde de la camionnette puis qui voudront jamais changer pour l'électrique. Mais eux, faut que à chaque fois qu'ils disent « Oui, mais sur le Lightning, t'as pas ta affaire. » Non, c'est pas vrai, tu l'as. Faut qu'ils soient capables d'être irréprochables avec la Lightning. C'est pour ça que je la trouve hyper intéressante. Puis moi, à chaque fois qu'il y a des nouveaux types de véhicules électriques, je m'y intéresse énormément, que ce soit une camionnette ou un vélo électrique. J'ai tout le temps cette curiosité-là parce que je trouve tellement qu'on a une source, une alimentation propre et abondante ici que moi, ça me stimule. Là, j'adore ça. Je suis très emballé à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau dans le monde électrique. Mais la Lightning, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, comme je vous disais, puis je suis curieux de vous entendre, mais il faut qu'elle soit irréprochable pour ceux qu'on veut convaincre.
Oui, absolument. Ben, tout comme la camionnette Chevrolet, qui est en fait une technologie plus... une version plus raisonnable de la nouvelle camionnette Hummer. Là.
Mais ça demeure bourré de gadgets, bourré de tape à l'œil. On veut vraiment en mettre plein la vue. On inclut des trucs dont on n'a pas besoin, mais il faut se démarquer, puis je pense qu'on le fait assez bien pour le moment.
Puis le Think Big est encore très présent sur le marché américain.
Oui.
Mathieu, en terminant, tu t'attends à quoi des futures éditions du CES? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir en automobile dans les années futures dans le CES? À quoi il faut s'attendre?
Qu'on le veuille ou non, ça va être la mobilité. Ça va être des constructeurs qui, justement, vont nous parler de leur concept pour déplacer des personnes. Ça va être des voitures avec lesquelles vous allez vous rendre au travail, mais qui va peut-être aller se stationner carrément ailleurs que sur dans le périmètre du lieu de travail. L'automatisation du transport, ça s'en vient, qu'on le veuille ou non. Il y a tellement de pénuries de main-d'œuvre chez les camionneurs notamment.
Oui.
Ça va être un gros enjeu. Les agriculteurs aussi ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'encore une fois cette année, on nous a montré chez John Deere des tracteurs autonomes. Donc
ça, c'est très logique parce que, si tu veux mon avis, là, payer quelqu'un 10-12 heures pour que le tracteur fasse ses rangées dans un champ...
Dans un territoire, un terrain défini, toujours le même trajet, c'est tout à fait logique.
Où il n'y a pas de danger d'accident ou à peu près. Écoute, ça c'est on ne peut plus logique. Là.
Mais vous savez, la voiture autonome va être intéressante aussi à partir du moment où on va sortir, par exemple, de Montréal, on va embarquer sur la 20 pour aller vers Québec. Puis là, on va embarquer la conduite autonome, puis je vais enfin pouvoir faire mon petit somme entre Québec-Montréal. C'est pas la route la plus emballante, là, on va se le dire. Puis ça va passer par ça.
L'autonomie. Tu vas avoir du fun, des fois tu varies. Des fois tu prends 20, des fois tu prends 40.
Ouh, hein?
C'est ça.
C'est pas encore les glissades d'eau, on s'entend?
Non.
Okay, je comprends que ça peut divertir un peu, là.
C'est ça, exactement.
Mais beaucoup, beaucoup de ça. Puis bizarrement, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec le divertissement dans les voitures.
Non.
Mais aussi que la voiture devienne un lieu de travail. Parce qu'on perd beaucoup de temps dans nos déplacements. Puis si le temps, c'est de l'argent, bien, on perd beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'on soit capable soit de se divertir, soit de communiquer ou soit de travailler à l'intérieur des véhicules. Et ce n'est que le début parce qu'aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut mettre à jour un véhicule, avoir des nouvelles options en matière de divertissement, mais les véhicules s'améliorent aussi au niveau performance avec des mises à jour logicielles.
Ouais.
Sans même aller au garage changer une pièce, je peux améliorer l'accélération ou l'autonomie de mon véhicule. C'est quand même assez capoté.
Oh oui, ça oui. Il va juste falloir améliorer, il va juste falloir qu'on développe toute cette technologie-là avec une ergonomie qui est logique parce qu'il y a des erreurs ergonomiques de par la multiplication des gadgets, des écrans, de ce que tu peux retrouver dans des véhicules. Le véhicule que je conduisais la semaine dernière peut avoir jusqu'à 7 écrans à bord. Je veux dire, 7 écrans dans un véhicule moderne, il faut que tu sois capable de gérer tout ça, puis il faut qu'il y ait une certaine logique. Et pas plus loin que l'année passée, ben toi et moi, Mathieu, tu te souviens, je t'avais montré un écran d'Infinity, ben en fait une Infinity où il y a deux écrans sur la planche de bord et où l'information est dédoublée. T'as même deux fois l'application Apple CarPlay sur deux écrans séparés parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de communication entre les deux écrans. Il faut que ça fonctionne aussi. C'est bien beau d'amener toute cette technologie-là, mais il faut que ça marche.
T'as pris le pire exemple, là.
Oui, peut-être. Okay.
Je pourrais contre-attaquer avec un exemple de Honda Odyssey 2016 où il y avait deux écrans, un tactile, un à roulette, mais j'irais pas jusque-là. Ça, c'était quand même assez épouvantable. Mais ce que tu as dit, Antoine, est très intéressant parce qu'il n'y avait pas de logique entre les deux systèmes. Et ça, la logique entre les systèmes, on va la voir aussi chez les constructeurs. C'est-à-dire que les constructeurs vont s'allier avec des géants du logiciel et de la techno. Qualcomm, qui fait les processeurs Snapdragon, très impliqué dans les télécommunications, a annoncé cette année qu'on voulait devenir la solution logicielle et en partie matérielle pour les composantes de ce qu'on appelle le châssis numérique. Donc, pour les voitures connectées, les voitures intelligentes, pour les systèmes de divertissement avec Volvo, Honda, Renault, GM, on veut avoir des expériences de conduite, l'info routière, l'info du véhicule, le divertissement à l'Internet, l'autonomie serait gérée par une seule et même compagnie. Donc, là, on aurait un meilleur contrôle, un peu comme votre téléphone Apple qui gère beaucoup plus sévèrement ce qui entre et ce qui sort de la ligne de fabrication. Là.
On pourrait même savoir si les Tim Hortons sont ouverts ou pas.
Ils sont souvent fermés ces temps-ci.
C'est ça.
Une simple mise à jour de Google Maps et le tour est joué. Vous l'avez dans votre véhicule, savoir si c'est ouvert ou non. Là.
C'est ça.
J'aime ton sens des priorités, Antoine.
Ben Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Et puis, on se reparle dans une prochaine chronique, certainement, parce que, veux pas, plus le temps avance, plus l'automobile et la technologie, ça ne fait qu'un.
Merci, Mathieu.
Bon, j'ai des astérix sur interface, messieurs, et aussi sur voiture autonome. Donc, voilà deux sujets intéressants.
OK, ça marche.
Merci, Mathieu.
Salut.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, ne perdons pas nos bonnes habitudes et concluons l'émission en répondant aux questions des auditeurs. Donc, on a Marie-Thérèse qui nous demande si on croit que les puces d'économie de carburant vendues en ligne fonctionnent réellement et à quel pourcentage d'économie de carburant doit-elle s'attendre?
Ah, ben ça, c'est simple, zéro.
Ah, mais pourtant, sur l'emballage, il est écrit 15 %.
Oui, c'est ça. Et ce sont des puces qui se vendent 10, 20 $?
Oui, à peu près.
Oui, c'est ça. Alors, zéro. Ça, c'est de l'arnaque pure et dure. Oubliez ça. On peut pas vendre un produit à 10 ou 20 $ et imaginer qu'il y a une technologie là-dedans.
Non.
C'est
un chargeur de téléphone coûte plus cher que ça.
C'est des trucs de charlatan. Là. On oublie ça carrément.
Moi, le truc que je conseille, c'est la douzaine 2 et on la place sous la pédale, donc on économise beaucoup en carburant. Voilà. Donc, on a Sylvain qui nous demande s'il faut obligatoirement mettre de l'essence super, donc d'octane 91, dans son Volvo XC60 2022, comme le recommande le fabricant.
On ne connaît pas la version, évidemment.
Non, c'est
mais
pas mentionné.
Peu importe, Volvo recommande de l'essence super parce que son moteur est calibré pour être utilisé avec de l'essence super. Donc, si vous mettez de l'essence ordinaire, même si c'est le moteur régulier, le 2 litres turbo régulier, vous allez perdre en puissance, vous allez voir votre consommation d'essence légèrement augmenter, vous n'aurez pas le même rendement parce que l'ordinateur va compenser, c'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir l'utiliser, mais l'ordinateur va devoir compenser, réduire la puissance et veut pas, la consommation d'essence va s'en ressentir. Alors oui, faut rouler ça dans un monde idéal avec de l'essence d'octane 91.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un nettoyage des injecteurs pourrait être nécessaire plus tôt?
Aussi, mais ça c'est évident. Mais même dans le cas d'une location, je vous dis pas que l'écart, parce que Au Québec, on se fait foutrement avoir au niveau de l'écart du prix entre le litre de carburant ordinaire et de super. Il y a des fois, il y a 25-27 sous d'écart entre les deux, alors que tu vas au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, puis l'écart est de 10-12 sous. Là, tu fais, OK, mais pourquoi on se fait avoir au Québec? Ben, parce qu'on est au Québec, puis c'est comme ça. Mais il en demeure pas moins que, oui, à moyen long terme, un nettoyage d'injecteur qui coûte 300-400 $, et surtout chez le concessionnaire, rentabiliser ça versus mettre de l'essence super, c'est bien difficile. Alors moi, j'opterais... De toute façon, le véhicule va mieux avec de l'essence super. Posez-vous pas la question.
On a Dominique qui possède une Kia Soul 2020 avec laquelle il dit avoir connu plusieurs problèmes. Il reste 3 ans à sa location et veut changer de véhicule dès maintenant. Il hésite entre un Subaru Forester Sport et un Toyota RAV4 Trail avec le groupe TRD. Qu'en penses-tu, Antoine?
Ben, j'en pense d'abord que vous allez perdre énormément d'argent sur votre Kia Soul parce qu'évidemment, vous n'êtes pas en équité positive. Le véhicule est en location depuis 2 ans. Vous avez premièrement fait l'erreur de le louer sur 5 ans. Même si le véhicule est garanti pendant 5 ans, une location sur 5 ans, ce n'est que très rarement avantageux. Dans le contexte actuel où on cherche des véhicules d'occasion, et si votre véhicule n'a pas trop de kilométrage, peut-être que vous allez vous en sortir avec une équité négative qui n'est pas trop lourde. Mais ce n'est pas la chose à faire, c'est-à-dire de louer un véhicule et de vouloir s'en défaire après 2 ans. Mon conseil, allez vous faire faire un estimé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez avoir comme équité négative sur votre véhicule en remettant les clés immédiatement ou en le donnant en échange. Si vous voyez que l'écart est trop grand, peut-être mettre votre location sur un site pour céder la location. Transfert de bail, vous allez peut-être devoir payer les frais de transfert 500-1000 $, donner vos pneus d'hiver avec, faire un petit cadeau, mais l'impact sera moindre que de redonner vos clés un concessionnaire qui va vous charger peut-être un écart de 7, 8, 9 000 $ par rapport à ce que vous devez sur le véhicule. Alors ça, c'est la première chose. Après ça, entre le Subaru Forester et le Toyota RAV4, j'ai pas honnêtement de préférence. Ce sont 2 super bons produits, des véhicules très fiables qui gardent une super bonne valeur de revente, consommation d'essence équivalente. Le RAV4 a peut-être l'avantage de pouvoir remorquer davantage parce qu'on dit qu'avec l'option Trail, on remorque jusqu'à 3500 livres. Mais si c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour vous, vraiment le conseil, c'est d'aller essayer les 2 véhicules et de voir ce que vous préférez. Et après ça, ben, de savoir qu'est-ce qui est disponible chez le concessionnaire. Parce que dans les 2 cas, ce sont des véhicules qui sont pas évidents à avoir par les temps qui courent. On sait ce que c'est le problème du côté des concessionnaires Toyota, des concessionnaires Subaru, pénurie de véhicules, pénurie de produits pour la quasi-totalité des modèles. Alors, bonne chance là-dedans, mais la première étape, c'est vraiment de vérifier quelle est votre dette et votre perte avec votre Kia Soul 2020.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Cube Radio.